Bien bonjour, nous sommes trois militants du groupe d'Amnesty International. On a déjà fait deux émissions, c'est la troisième, et ça devient une bonne habitude. Donc aujourd'hui, les intervenants sont différents, c'est Michel, Marie-Catherine bonjour. Et Marie.
Bonjour.
Bonjour. Nous avons choisi deux thèmes, les ventes d'armes, le commerce des ventes d'armes dans le monde et les problèmes que ça pose, et notamment par rapport à la France. Nous allons vous parler d'une campagne que nous appelons 100% illégale au sujet des exportations ou importations plutôt de produits en provenance des colonies israéliennes en Palestine. Et puis on terminera sur des bonnes nouvelles ou des propositions que nous faisons aux auditeurs et auditrices de se mobiliser à nos côtés, de nous rejoindre éventuellement. Voilà, ce sont des sujets proposés par Amnesty International et nous sommes militants d'Amnesty International. Donc on peut commencer peut-être par les ventes d'armes.
D'accord.
Marie-Catherine et Michel, enfin, on va parler tous les trois un petit peu de ce sujet qui nous préoccupe beaucoup à Amnesty International concernant les armes dans le monde. Comment ça se passe quand une entreprise veut vendre des armes à un pays ?
Il y a d'une part le commerce illégal, ce qu'on appelle le trafic des armes, qui est un véritable fléau, mais qui ne représente que moins de entre 10 et 20% disons du transfert des armes dans le monde. Mm-hmm. Donc les principaux responsables des transferts des armes dans le monde, ce sont les États. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand un État vend des armes à un autre, c'est pas une entreprise qui va vendre ses armes, c'est l'État qui accorde une licence, donc qui donne son autorisation pour que des armes soient vendues à un autre État. Donc en tenant compte évidemment du contexte et a priori savoir ce qui va être fait de ces armes.
D'accord. Mais en dehors de ce que décide chaque État, je crois savoir, et je sais même, qu'il y a des traités internationaux qui essaient de réglementer, parce que les États ne sont pas tous très soucieux de, par exemple, de respecter les populations civiles dans les guerres, etc. Donc il existe un traité qui réglemente le commerce des armes, un traité international.
Oui, qui est assez récent. Mm-hmm. Bon, en fait, le sujet est assez brûlant. C'est vraiment un sujet d'actualité parce que l'usage des armes, notamment dans les conflits, devient de plus en plus meurtrier pour les civils. Donc, je donne un chiffre quand même qui mm-hmm. me semble assez révélateur. Actuellement, dans les guerres, il y a 80% des victimes qui sont des civils et 20%
c'est
des
énorme,
militaires.
Énorme.
Ben, c'est énorme. Et c'est exactement le contraire d'il y a un siècle où c'était 20% de civils qui étaient victimes. Mm-hmm. Des civils qui sont souvent délibérément ciblés. Donc, ça pose un problème énorme qui, justement, a justifié, je dirais, à partir de la fin du XXe siècle, début de notre siècle, qui a justifié que des ONG, des prix Nobel de la paix, se préoccupent d'établir un traité, de proposer que soit établi un traité, justement pour réglementer le commerce des armes. Alors ce traité, il existe, oui, il est assez jeune, il est entré en vigueur après de nombreuses années d'élaboration, il est entré en vigueur le 24 décembre 2014, donc il a un petit peu plus de 3 ans.
D'accord. Qu'est-ce que ça stipule ? Enfin, les pays, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de pays qui ont signé ce traité dans le monde ?
Oui, alors il y a les signatures et les ratifications. Sans insister trop sur cet aspect juridique, il y a 130 pays qui ont signé, c'est-à-dire en fait qui ont approuvé le traité tel qu'il était en 2013. Il y en a moins, une petite perte entre-temps. Il y en a 92 qui ont ratifié. Ratifié, ça veut dire voté par le Parlement du pays et que la législation du pays s'adapte aux contraintes du traité.
Et que dit, enfin, à quoi ces pays s'engagent-ils donc ?
Un certain nombre d'ONG ont fait énormément pression pour que ce traité existe et pour que son contenu soit solide. J'utilise le terme qu'eux-mêmes ont utilisé.
Et donc Amnesty fait partie de ces ONG. ONG, c'est organisation non gouvernementale.
Organisation non gouvernementale, il y en a eu 3 vraiment qui sont à l'origine de l'établissement de ce traité. Il y a Amnesty International, il y a Oxfam. Alors Oxfam, c'est très intéressant parce que c'est une association qui s'occupe de développement. Donc, quel est le rapport avec les armes ?
Oui.
Ben, pour eux, le rapport est extrêmement étroit avec les armes, c'est-à-dire la prolifération des armes est un frein au développement. Les gens, dans un climat d'insécurité, n'ont plus accès à la nourriture, aux médicaments, les enfants ne vont plus à l'école, les gens n'ouvrent plus leur commerce, etc.
Sachant que, par exemple, les écoles sont ciblées dans beaucoup de conflits, on entend dire...
écoles, hôpitaux,
délibérément ciblés,
on aura l'occasion de le voir,
enfants,
on parlera de certains conflits, tout à fait. Donc, une Oxfam, et puis Une organisation beaucoup moins connue, IANSA, qui en fait s'occupe de ce qui s'appelle les armes légères. Mmh. Bon, les armes légères, ce sont, bah, pour simplifier, les armes qu'un homme peut porter, hein, par opposition aux chars blindés, aux, en fait, etc., sûr, aux ouais. blindés, mmh. aux chars, aux, mmh. aux bombes, etc. Bon, alors, que dit, quel est le principe donc de ce traité,
oui.
qui était ce que les ONG voulaient en mmh. priorité, c'est qu'un État s'interdise d'exporter des armes vers un autre État s'il y a risque que ces armes soient utilisées pour de graves violations des droits humains. C'est-à-dire, soit dans le cadre d'un conflit, que justement les civils soient ciblés alors qu'il y a un droit de la guerre, il y a un mmh. droit humanitaire mmh. International qui interdit évidemment que les civils soient les principales victimes, mmh. qu'ils soient protégés au maximum. Et puis, dans les États très répressifs, ces armes peuvent être utilisées pour réprimer, comme ça s'est vu dans beaucoup de pays, des manifestations pacifiques à tir de balles réelles.
Très, voilà. très souvent. Il peut aussi s'agir de génocide ou d'épuration ethnique, je suppose.
Bien sûr,
ça fait partie.
Tout à fait.
Il est encore question, on entend encore ces mots-là de temps en temps, ou trop souvent dans l'actualité, de choses qui ressemblent
oui.
à un génocide.
Alors là, bon, en cas de génocide, je dirais... il est probable que l'ONU décrétera un embargo sur les armes, donc ce qui mmh. est évidemment très, mmh. très contraignant, je dirais. Parce que le problème du traité sur le commerce des armes, c'est qu'il n'est pas contraignant. C'est-à-dire, s'il n'est pas respecté, il n'y a pas de sanction.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une évaluation, quatre ans après, un bilan, une évaluation oui. des pays qui se sont engagés on regarde comment ils ont pratiqué la vente d'armes ou comment ça se passe?
Oui, il y a une évaluation tous les ans. Donc... il y a une conférence internationale des États qui ont ratifié le traité mm-hmm. tous les ans. Donc il y en a eu trois, hein,
oui.
2015, 2016, 2017.
D'accord.
Et dans ces conférences, les États sont tenus de présenter un bilan de leur vente d'armes pendant l'année.
Donc tous les pays signataires.
Tous les pays qui ont ratifié, donc, hein, oui. puisque mm-hmm. les signataires, en fait, ils ne sont pas engagés, en fait. Hein. On pourra d'ailleurs donner oui. quelques exemples de pays qui ont signé ou qui n'ont pas signé. Mm. Bon. Donc, dans cette conférence, les ONG ont déploré que les bilans soient quelquefois carrément absents, ou alors parfois partiels, ou alors flous, ambigus, il manque des précisions. Bon. Donc, il y a beaucoup de choses à parfaire encore. Et les organisations donc, de défense des droits de l'homme qui sont impliquées sur ce sujet essayent d'être au maximum présents dans ces conférences pour présenter leurs bilans, mm-hmm. qui sont là clairs et nets, hein, des rapports comme ceux d'Amnesty, on sait très bien ce qu'ils contiennent, pour faire des propositions aussi, c'est mm-hmm. un côté évidemment positif.
Ok. Est-ce que la France fait partie des pays qui vendent le plus d'armes au monde?
La France,
on est comment dans ce classement un peu
la
sinistre?
La France est très bien placée. Elle est placée en quatrième position à peu près.
On est le quatrième pays exportateur.
On est un énorme exportateur.
Vendeur d'armes.
Ouais. Mmh. Bon, le premier, celui qui domine, hein, mmh. ça ne surprendra personne, ce sont les États-Unis. Mmh. Les États-Unis sont responsables dans le commerce des armes d'à peu près 30%. Du commerce
c'est
des
énorme,
armes mondiales.
Oui. Mm-hmm.
Ce qui est énorme, mm-hmm. ça vise 170 pays. Bon, les États-Unis ont signé, mais pas ratifié, c'est-à-dire mm-hmm. ne sont pas engagés par le traité. Bon, ils ont signé sous le mandat d'Obama, mais le Congrès refusait totalement de ratifier. Donc, les États-Unis ne sont pas engagés par ce traité.
Et, par contre, la France l'est.
Alors
est-ce que la France, est-ce
la
que nous
France
vendons
l'est.
Des armes à des pays qui ne respectent pas les droits
alors,
de l'homme?
Ce sont deux choses différentes. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous avons ratifié le traité. Mm-hmm. dont nous nous sommes engagés, mais malheureusement, aux yeux d'Amnesty et de bien d'autres, nous ne respectons pas, dans des cas bien particuliers, nos engagements vis-à-vis de ce traité.
Et à quel pays nous vendons le plus, par exemple, en ce moment?
Alors nous vendons, nos gros contrats ont été et continuent d'être avec l'Arabie Saoudite, mmh. l'Égypte aussi. Donc deux pays pour lesquels, alors là, il y a des gros problèmes, mmh. et Amnesty considère que notre engagement sur le traité du commerce des armes est violé, dans le cas de ces deux pays. L'Égypte à cause des répressions de manifestations.
Oui, oui, on entend souvent parler.
Il
oui,
y a eu une manifestation sûr, oui. en été 2013, sous l'actuel président, hein, où il y a eu entre 700 et 1000 morts. Mm-hmm. Donc ça laisse quand même...
Une manifestation pacifique.
Pacifique,
ça, hein,
c'était
oui.
une manifestation mm-hmm. des frères musulmans. Mm-hmm. Et une manifestation pacifique, mm-hmm. tout à fait.
Tirée sur
réprimée à, balle, à tir ouais. de balles mm-hmm. réelles, oui. Saoudite, c'est le problème, je dirais, le plus brûlant actuellement, mm-hmm. à cause d'un conflit... que l'Arabie Saoudite mène sur un petit pays, le Yémen.
comment la France se trouve voilà, indirectement la France concernée.
Oui, la France est indirectement concernée. La France ne participe pas au conflit. Bon, en fait, l'Arabie Saoudite a lancé une coalition qui comporte aussi d'autres pays du Golfe et puis notamment les Émirats Arabes Unis. Pendant l'été 2015.
Juste pour resituer un petit peu le Yémen, pourquoi est-ce que le Yémen est en guerre déjà ?
Alors, le Yémen, c'est un pays qui est divisé depuis très très longtemps entre Nord et Sud. Mm-hmm. Et là, en l'occurrence, la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite est intervenue, c'est que des rebelles houthis s'appellent, mm-hmm. du nord du Yémen, mm-hmm. N'ont pas reconnu, disons, la légitimité du président Hadi. Et donc, ont progressé militairement dans le pays jusqu'à la capitale Aden. Mmh. Et à ce moment-là, l'Arabie Saoudite est intervenue, donc à la tête d'une coalition, pour réduire ces rebelles. Très efficace, évidemment, car très bien armés, ces pays ont finalement repoussé les Houthis, qui sont dans une petite zone, maintenant au nord du pays, complètement encerclée. Alors, le problème qui se pose, bon, c'est un conflit, c'est une guerre.
Oui, entre les rebelles, l'ancien président, le nouveau président.
Ah oui, voilà, les Houthis sont fidèles à l'ancien président. Voilà, oui. Bon, c'est une histoire très compliquée, on va pas détailler, mais bon. Il y a un autre élément qui intervient, c'est que les Houthis sont chiites, soutenus par l'Iran, grand pays chiite de la région, et l'Arabie Saoudite est le grand pays sunnite de la région. Mm-hmm. Bon, c'est un des éléments, pas le seul, loin de là. Les civils, donc, comme on l'a expliqué un petit peu au début, sont délibérément ciblés. Donc les hôpitaux, les écoles, les commerces.
Les villages, les villages. Les paysans.
Exactement.
Travail,
il y a, mettons, une maison qui va être ciblée par une bombe, toute la famille va mourir, alors que ce n'est pas une cible évidente, étant donné que les militaires sont à plus de 500 mètres.
Et les civils sont complètement désarmés.
Alors, il y a un autre problème qui se rajoute, c'est que pour empêcher les Houthis d'être ravitaillés, alors ils n'ont pas grand-chose, les Houthis, ils ont juste une toute petite façade maritime sur la mer Rouge, avec un port qui s'appelle Hodeïda, et c'est par là qu'ils peuvent se ravitailler. Donc l'Arabie Saoudite a décrété un blocus complet, avec des navires de guerre. Donc ça veut dire que ne parviennent à la population ni nourriture.
Ils sont affamés.
Complètement.
Il y a
7 millions de Yéménites, là, qui risquent de connaître la famine.
Sur une population de quoi, 27 millions d'habitants, je crois, c'est ça.
Donc, tout à fait. Oui,
plus
oui.
d'un quart.
Donc, énormément sous-nutris et 7 millions qui risquent effectivement d'être atteints par la famine. Il y a une épidémie de choléra.
Je crois que l'ONU a dit que c'était la plus grave crise humanitaire de tous les temps.
Oui, oui.
J'ai entendu ça.
Du monde actuellement, de tous les temps.
Oui,
bon,
non,
je crois qu'il y a de la concurrence, malheureusement.
Oui.
Mais en tout cas, dans le monde actuel, c'est la pire crise humanitaire, potentiellement. Ce blocus est quelque chose d'épouvantable.
Et ce qu'on appelle une crise humanitaire, c'est en fait directement les populations civiles qui sont
menacées dans leur...
qui ne peuvent pas manger, se soigner, vivre normalement.
Exactement. Alors, les blessés ou les malades ne peuvent pas aller dans les hôpitaux qui sont ciblés. Bon, je reprends on en parlait avec Michel tout à l'heure, qui rappelait qu'avant, Médecins Sans Frontières explique qu'avant, ils mettaient leur drapeau sur les hôpitaux.
Tout à fait, oui.
Oui, pour dire surtout, n'envoyez pas de bombes à cet endroit-là.
Voilà, et maintenant, ils enlèvent leurs informations, tous les drapeaux qu'ils ont, effectivement.
MSF, on parle de MSF, c'est ça?
Oui,
Médecins Sans Frontières qui gèrent les hôpitaux.
Parce que maintenant, les hôpitaux sont ciblés. En fait, c'est très, très, très comparable à ce qui s'est passé en Syrie, à Alep Est, ou tout récemment près de Damas, à la Ghouta. C'est le même problème. Il s'agit de terroriser une population, d'en éliminer le maximum de membres pour réduire la rébellion. Voilà. Alors, la France dans tout ça...
Oui, alors, voilà, la France.
La France n'est pas partie prenante de la coalition.
Non.
La France ne bombarde pas, mais la France a conclu des contrats d'armes énormes avec l'Arabie Saoudite.
Récemment ou il y a
Alors, les
plusieurs
gros
années,
contrats, c'était sous le mandat d'Hollande de 2013-2015. Mm-hmm. Des contrats énormes avec, alors, ce qui est un peu notre spécialité, des chars, des blindés, des navires de guerre, des avions de guerre. Voilà. Bon, avant le démarrage...
Avant que le conflit ne démarre.
Voilà.
Oui.
Bon, c'était peut-être déjà discutable, mais enfin, c'est pas du même ordre. Et puis, depuis le déclenchement du conflit, la France a... à continuer à livrer ses armes, et même il y a d'autres licences qui viennent d'être accordées pour des exportations d'armes.
Alors donc, qu'à d'autres, d'autres circonstances, on a été capable de casser un contrat, par exemple, on évoquait l'autre jour avec, avec la Russie, on avait construit un énorme bateau de guerre, je ne sais pas ce que c'était, j'y connais rien dans les armes, mais et on a dénoncé ce contrat parce que la Russie avait envahi l'Ukraine et donc on ne l'aura pas livré.
Alors premièrement, on peut effectivement interrompre les livraisons, ça doit être écrit dans les termes du contrat d'ailleurs, c'est effectivement il y a ce précédent-là qui nous, qui nous le montre. Mais il y a eu aussi, non seulement il y a eu les livraisons des contrats précédents, mais il y a eu de nouvelles licences et de nouvelles exportations décidées. Alors le problème, c'est est-ce que ces armes sont utilisées au Yémen? Bon, alors on n'en a pas pour l'instant de preuve absolue. Peut-être qu'il y a possibilité de faire une enquête. Mais il y a une grosse probabilité que l'Arabie Saoudite, qui est centrée actuellement sur ce conflit, utilisent des armes françaises.
Et qu'est-ce que, justement, nous, Amnesty, qu'est-ce qu'on demande par rapport à cette situation qui est
On demande l'arrêt des ventes d'armes en Arabie Saoudite. Ça rentre totalement dans les exigences du traité sur le commerce des armes.
Bien sûr que...
Mais on essaye d'alerter l'opinion publique. On commence à parler un petit peu du Yémen maintenant. On essaye d'alerter l'opinion publique et les parlementaires.
Oui, je crois que j'ai entendu parler d'un sondage qui dit que 3 Français sur 4 demandent la suspension des ventes d'armes au Yémen, justement. Donc ça prouve que les Français sont réceptifs à toutes ces informations et qu'ils ont...
Si on dit, moi, je m'identifie complètement, si on dit, voilà, il y a une famille qui a été massacrée dans une maison absolument sans raison avec des bombes françaises, comme actuellement, apparemment, il y a des éléments de preuve en Italie. Dans une affaire comme ça, il paraît que les Italiens, enfin ça fait grand bruit en Italie, l'idée que on peut une arme française peut être responsable d'une barbarie pareille. Donc alerter l'opinion publique et l'informer, l'alerter, c'est important. Informer les parlementaires, parce que un des problèmes quand même aussi qui est mis en avant par Amnesty, c'est que les bilans que fait le ministère des Armées des ventes d'armes chaque année manquent vraiment de précision. Donc,
ça n'est pas très transparent.
Non, c'est pas très transparent. Voilà, on va dire ça comme ça.
On a du mal à obtenir des bonnes informations, effectivement, sur qui vend à qui.
Voilà, exactement. La destination, la nature
quelles
des
armes. Quelles armes.
Tout à fait. Donc, ça, c'est un problème que Amnesty déjà a soulevé depuis longtemps. Alors, il y a des députés qui sont sensibles à ce
donc,
message.
On essaie de les rencontrer, les influencer. Tout le monde peut le faire, d'ailleurs. Tout le monde peut interpeller son député. Il n'y a pas que les ONG comme Amnesty International. Oui, un citoyen lambda,
lambda peut s'adresser à son député.
Poser des questions
au député de sa circonscription, bien entendu. Alors, il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant, quand même. C'est qu'on ne parle pas dans le vide, puisqu'il y a un député... C'est un député de la majorité qui a posé des questions au gouvernement, qui a demandé qu'il y ait une enquête parlementaire sur les ventes d'armes en Arabie Saoudite, et qui donc parle tout à fait dans le sens de ce qu'on voulait.
Mais je crois qu'on va le retrouver pendant la pause musicale, tiens. D'écouter de la musique, de la bonne musique.
Voilà, exactement. Sébastien Nadeau, j'ai retrouvé.
Nadeau, et c'est quel département ?
Je ne sais pas.
Quelle région ? Tu ne sais pas.
Bon. Alors, je ne sais pas. Là, il reste des choses encore à chercher.
Mais ça prouve qu'effectivement, c'est utile d'interpeller les députés et les sénateurs aussi, quand on les connaît.
Mais les actions, elles passent par là.
Hein. Oui, bien sûr.
L'interrogation qu'on peut faire.
Bien sûr, ils nous représentent, on a voté pour eux.
Et puis leur rappeler leurs engagements vis-à-vis du traité du commerce des armes et de l'Union européenne, qui a à plusieurs reprises demandé qu'on cesse ces ventes d'armes.
En Arabie Saoudite.
En Arabie Saoudite, précisément.
Ok.
Tout à fait.
On fait une petite pause. Et on revient après vous parler d'un autre sujet qui nous préoccupe, 100% illégal. À tout à l'heure. Yeah. sommes de retour, Marie-Catherine, Michel et Marie, donc du groupe d'Amnesty International Rouen, pour aborder notre deuxième thème du jour, du mois, disons, à savoir la campagne que nous appelons campagne 100% illégale. Alors, Michel, qui connaît bien le sujet, pourquoi 100% illégal ? Peut-être on peut repartir du contexte. Donc, dire que ça, déjà, il s'agit d'une campagne concernant les colonies israéliennes en Palestine, le commerce.
Tout à fait. Voilà. Donc, ces colonies israéliennes en Palestine, voir quel est le contexte. C'est d'abord la création de l'État d'Israël en 1948, donc après la Seconde Guerre mondiale, avec une déclaration d'indépendance par David Ben-Gourion. Et ensuite, on a les territoires que l'on appelle territoires occupés lors de la guerre qui a eu lieu le 5 juin 1967, effectivement. Cela concerne les territoires qui s'appellent la Cisjordanie, c'est-à-dire territoire qui est en deçà du Jourdain, c'est-à-dire du côté de la Méditerranée par rapport à ça. Il y a Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Alors,
Depuis cette occupation qui était militaire, on s'en souvient pour ceux qui étaient nés, les autres le savent par les livres d'histoire.
Tout à fait. Et donc, depuis, il y a eu effectivement des implantations de colonies israéliennes, effectivement.
Et, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi ? À part l'occupation militaire, quand on dit une colonisation, la colonisation, c'est quoi ?
Ça veut dire qu'il y a eu des personnes qui se sont installées sur les territoires palestiniens qui ont créé des communautés et qui ont exploité le terrain sur ces communautés.
D'accord.
Donc, ils fabriquent, ils cultivent un certain nombre de choses, voire travaillent avec les Palestiniens qui travaillent, eux, dans des conditions un peu difficiles. Voilà.
Ça veut dire, juste pour revenir sur ce qu'on appelle la colonisation, par exemple, il y a eu confiscation des terres.
Voilà,
il y a eu des expropriations, il y a eu des démolitions de maisons.
C'est
des choses...
ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les Palestiniens, maintenant, n'ont quasiment plus rien sur ces colonies-là.
Dans ce qu'on appelle les colonies.
Voilà. Alors, ces colonies-là représentent 100 000 hectares de terres palestiniennes qui ont été confisquées depuis 1967. Et c'est un phénomène qui est en cours, donc qui ne s'arrête pas actuellement.
On en entend parler, hélas, souvent.
Tout à fait.
Et donc, cette colonisation, elle est illégale, si on elle parle d'expropriation, de confiscation, tous ces termes-là.
Oui, tout à fait. Elle est complètement illégale. La politique de colonisation d'Israël est une violation flagrante du droit international et c'est vu au niveau de l'ONU. Il y a deux principes fondamentaux du droit international humanitaire qui sont violés. C'est notamment l'occupation militaire ne doit être qu'une situation temporaire et ça dure depuis 50 ans. Ensuite, la puissance occupante n'a pas le droit de transférer des civils de son pays vers les territoires occupés. Donc, il y a une illégalité constatée à ce niveau-là. Et qui a
par
été,
l'ONU, donc.
Voilà,
à quel l'ONU. Moment ça fait longtemps.
Alors, elle a été constatée au fur et à mesure et elle a été reprise en décembre 2016, notamment par une résolution 233, effectivement, par le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, il y a aussi une autre institution qui a parlé de cette colonisation en la mettant à égalité avec un crime de guerre selon le statut de Rome de la CPI, c'est-à-dire de la Cour pénale internationale.
D'accord.
Donc, il faut dire que les Palestiniens ne peuvent pas circuler librement dans leur pays, ne peuvent pas s'exprimer. Il y a effectivement des contrôles à tous les checkpoints et ainsi de suite.
Donc c'est vraiment une atteinte à ce qu'on appelle les droits de l'homme, qui nous tiennent à cœur et que nous essayons, nous battons pour les faire respecter dans le monde entier. Et là aussi, donc droit de circuler, droit de se faire soigner. Je crois que les Palestiniens ont beaucoup de mal à aller se faire soigner, parce qu'ils sont entravés dans la libre circulation, donc ils ne peuvent pas aller à des rendez-vous médicaux.
Voilà, j'ai quelques chiffres à ce niveau-là. Par exemple, il y a 11 000 rendez-vous médicaux qui ne peuvent pas être faits par des des Gazaouis parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir de la bande de Gaza. Mm. Il y a aussi un autre chiffre très parlant, c'est il y a 54 personnes qui sont décédées à cause d'un refus d'autorisation de sortie de la bande de Gaza pour se faire soigner. Mm-hmm. Sur ces 54 personnes, il y a eu 46 cancers concernés. Mm-hmm. Donc les personnes ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas se soigner mm-hmm. et qui meurent effectivement. Alors globalement, le chiffre c'est 46%, c'est-à-dire quasiment la moitié des personnes qui sont malades ne peuvent pas aller se faire soigner à l'extérieur de la bande de Gaza.
Voilà, donc ça c'est concernant l'occupation des territoires. Alors maintenant, voilà. La campagne que nous menons, qui s'appelle donc 100% illégal, concerne spécifiquement le commerce.
Voilà, ça concerne le commerce.
Alors,
et toutes
tu
les...
nous expliques.
Voilà, j'ai essayé d'être clair. Donc, ça concerne le commerce. Donc, ce que demande Amnesty, il le demande donc au gouvernement. Hein, et en particulier à la France, ce qu'il demande, c'est d'interdire l'importation des biens produits dans les colonies israéliennes sur le territoire palestinien.
D'accord.
C'est-à-dire tout ce qui est fait sur le territoire palestinien.
Dans des colonies qui sont illégales, du point de vue du droit international,
qui sont illégales,
donc
effectivement,
la fabrication et le commerce est illégal. D'où le nom de la campagne que nous menons, qui s'appelle 100% illégal, sur ces produits, illégaux.
Voilà, on demande que l'importation soit interdite. On demande également d'interdire aux entreprises domiciliées dans notre pays, entre autres la France, d'avoir des activités dans ces colonies. Parce que ces activités-là aussi permettent de contribuer
au développement économique
au développement des colonies.
Donc c'est contraire à ce qui a été décidé.
Voilà. Alors, ce que l'on peut donner, c'est quels sont les produits qui sont concernés par
Mais
ça.
Mais ça change juste, Michel, on peut peut-être préciser qu'il ne s'agit pas d'un boycott. On n'appelle pas... Il y a eu souvent des appels à des boycotts, enfin... On entend souvent parler de boycottons les produits, etc., qui viendraient d'Israël. C'est pas ça du tout,
Du tout. Alors, d'un côté, la différence. Le boycott est une action qui s'adresse à des personnes,
Des
consommateurs. Voilà. Donc, on ne veut pas du boycott. Et ensuite, on veut spécifiquement interdire les produits des colonies israéliennes et non pas tous les produits israéliens. C'est-à-dire les produits israéliens produits en Israël ne sont absolument pas touchés dans ce cadre-là.
Et il y a moyen de faire la différence, c'est ça?
Alors, le moyen de faire la différence, c'est une bonne question. Il y a eu une action de l'Union européenne qui s'est faite sur le sujet en 2015 pour qu'il y ait un étiquetage des produits, à faire. Par les Israéliens, mais effectivement, là, on peut craindre que les choses ne soient pas faites correctement.
Ben, on ne le voit pas, en tout cas.
On ne le voit pas, d'ailleurs. Et après, c'est la responsabilité des États importateurs que de faire la différence ou de faire respecter cette différence. Mm-hmm. Donc, parce que ça n'est pas suffisamment efficace, donc Amnesty, engage cette campagne 100% illégale.
Puis en disant que c'est aux États de faire appliquer, c'est pas à chaque consommateur de dire tiens, tel pamplemousse, il vient peut-être d'Israël, je l'achète pas.
Tout à fait.
D'abord, on n'en est jamais sûr. Et l'étiquetage, alors imposé par la Commission européenne, donc il y a pas, le bilan n'est pas très positif.
Non, le bilan n'est. Alors je n'ai pas de bilan, mais globalement, on n'a pas une information.
C'est quand même une mesure symbolique.
C'est une mesure symbolique.
Déjà.
Oui.
Hein, mais dire que les produits issus des colonies doivent être étiquetés, repérés, serait plus.
Oui,
ça va un peu dans le sens de...
Mais effectivement, ça n'est absolument pas appliqué correctement. Mm-hmm. Pour information, peut-être, les produits qui sont concernés...
Oui, tu voulais dire ça, oui.
Voilà, c'est le miel, les produits agricoles,
comme le miel,
l'huile d'olive, les œufs, les dattes, les volailles, fruits, légumes, le vin. Mais il y a aussi les cosmétiques et les produits électroniques qui sont fabriqués.
D'accord.
Alors, une information supplémentaire, c'est que l'ONU a fait effectivement des recherches économiques. Et si les colonies israéliennes n'existaient pas, l'économie palestinienne serait deux fois plus importante maintenant s'il n'y avait pas donc ces colonies. Donc c'est ce qui est quand même important, de voir ce développement qui n'existe pas au niveau israélien. Enfin, un Palestinien.
Mais on voit encore le rapport entre violence, enfin, sorte de violence, et puis le problème du développement économique, qui sont toujours complètement liés. Et
oui, tout à fait, parce que les Palestiniens, non seulement n'ont pas le droit de se déplacer, mais premièrement sont très mal payés au niveau donc, des salaires, n'ont pas le droit, notamment autour de Jérusalem-Est et tout ça, n'ont pas le droit à l'eau, à l'électricité, et ainsi de suite. Donc c'est très peu... c'est très contraignant. Dans les colonies qui s'éloignent un peu de Jérusalem, il y a davantage de compassion entre, entre les personnes, mais au niveau de Jérusalem-Est, c'est vraiment très, très dur en termes de comportement.
Alors concrètement, pour tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent, qui seraient sensibles à ce que nous évoquons, à notre campagne 100% illégale, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour soutenir cette campagne ?
Pour soutenir cette campagne, alors effectivement, l'important, c'est d'essayer de bien faire comprendre que l'information, c'est l'illégalité de ces colonies israéliennes en Palestine. Mm-hmm. Ça, c'est une information...
Et pas une condamnation de l'État d'Israël, bien sûr.
Ça n'est pas une condamnation.
Dans le contexte actuel, c'est important de le rappeler.
Voilà.
Que nous condamnons aussi bien les exactions qu'elles viennent d'Israël ou des Palestiniens, qu'il s'agit d'atteinte aux droits humains.
Voilà.
Mais que là, il s'agit... uniquement de faire appliquer ce qui est décidé internationalement, c'est-à-dire des colonies qui sont illégales. Donc, il ne faut pas aller dans le sens de les développer économiquement.
Je renforce ça, c'est-à-dire que Amnesty est impartial et ne veut que défendre les droits humains de toutes les personnes. Et dans le cas des Palestiniens, ça peut être effectivement dans le cadre d'un problème économique. Et là, ils sont effectivement très mal traités par les Israéliens.
Le droit de vivre, le droit de pouvoir travailler sans être...
Le droit de se déplacer.
De s'exprimer, etc.
Tout à fait.
Et peut-être on pourrait... Donc on propose une pétition qu'on trouve en ligne ou qu'on trouve sur le site d'Amnesty. On va en parler peut-être après.
Oui.
Et on pourrait peut-être aussi parler, à propos de, pour finir sur ce sujet, de la jeune adolescente qui s'appelle Ahed Tamimi, l'adolescente palestinienne de 16 ans qui est actuellement...
En prison.
En prison. Qu'est-ce qu'elle a fait ?
Alors, ce qu'elle a fait, c'est que, comme je pense beaucoup de jeunes Palestiniens qui se révoltent un petit peu, elle a tout simplement donné une gifle et un coup de pied à un soldat israélien. Et pour ça, elle est condamnée pour l'instant à 8 mois, mais elle risque 10 ans de prison, j'irais. Et elle est condamnée par un tribunal militaire. Et donc, c'est quand même assez symptomatique de l'état d'esprit de ce qui se passe en Palestine. C'est pas un tribunal civil qui va la condamner, mais un tribunal militaire.
Alors qu'il y a une convention des droits de l'enfant qui est, dans ce cas-là, complètement bafouée.
Oui, tout à fait.
C'est vrai qu'elle est complètement remarquable, cette ado, quand on la voit, quand on tout voit ce qu'elle a fait, elle a une force, un courage. Bon, c'est assez... On pourrait dire que c'est un peu héréditaire, parce que toute sa famille est concernée, toute sa famille est réprimée. D'ailleurs, la mère, la cousine, le père, quand on regarde un peu son histoire, en fait, ils sont tous très, très militants, on pourrait dire, de la cause palestinienne.
Oui.
Et elle, en particulier, à 16 ans, elle est déjà...
Je crois que
elle a
c'est
une pêche d'enfer. Enfin, je veux dire, elle est battante, même en prison. Oui. Bon, elle n'est toujours pas libérée.
Je crois que son comportement est un comportement tout à fait commun des gens qui ne supportent pas d'être brimés.
Oui.
Elle est loin d'être une terroriste.
Non, les soldats étaient arrivés dans sa maison. Ils avaient encerclé leur maison. Je crois que c'est ça qui l'a vraiment mis la...
Absolument. Elle ne fait que réagir par rapport aux agressions dont elle est victime. Elle ne va pas au-delà de ce genre de choses.
C'est une gifle et un coup de pied, c'est pas un tir.
Voilà.
Ça ne vaut pas un procès par un tribunal militaire, etc. Tout ce qui... On ne sait pas comment elle va s'en sortir. D'ailleurs, elle risque plusieurs années de prison, etc.
Oui,
elle a 16 ans.
Elle risque 10 ans.
Donc, elle s'appelle Ahed Tamimi, pour dire
son
nom.
Voilà, tout à fait.
Ahed elle est absolument bouleversante, on va dire.
Alors,
voilà. Donc,
cette pétition est terminée pour Ahed Tamimi.
Oui, oui.
Et donc, elle a été remise comme la précédente, effectivement. Par contre, effectivement, sur le site
d'Amnesty, qu'on va rappeler tout à l'heure, on peut signer la pétition ou la faire circuler.
Sur les
concernant 100% la campagne 100% illégale. Donc une petite pause s'impose pour s'aérer les méninges. Nous sommes de retour sur Radio HDR, l'émission mensuelle maintenant d'Amnesty International. Et dans une dernière partie, nous allons vous donner de bonnes nouvelles.
Donc je vais vous parler d'un prisonnier du Tchad qui s'appelle, je vais vous donner son surnom qui est plus simple à prononcer, Mahadine, qui était emprisonné depuis plusieurs mois. Pourquoi ? Parce que sur son blog, il avait dénoncé la corruption du gouvernement. Il était en prison, malade. Dans un premier temps, il a pu être transféré dans une prison plus proche de sa famille. Et là, nous avons appris, il est libéré.
Donc la première mesure était, on peut le signaler, grâce à toutes les pétitions.
Absolument, c'était un de nos dossiers de la campagne 10 jours pour signer, qui avait permis d'obtenir 60 000 signatures en sa faveur. Et bien entendu, cette action a été un moyen de pression très efficace.
Et donc on a appris aujourd'hui qu'il était libéré.
Libéré,
donc
voilà.
C'est encore mieux que d'être transféré d'une prison à une autre. Une autre région du monde d'où nous vient une bonne nouvelle, c'est d'Éthiopie, où le journaliste Eskinder Nega, qui est un journaliste prisonnier d'opinion qu'Amnesty avait adopté, parce que c'est une des formules de soutien d'Amnesty, c'est d'adopter des prisonniers politiques. On pourra en parler à une autre occasion. Donc nous avons appris récemment qu'il a été libéré le 14 février, en même temps que 746 détenus. Donc très bonne nouvelle. Encore une bonne nouvelle, Michel.
Oui, alors cela concerne le Bénin, un pays qui n'est pas très loin. Le chef de l'État du Bénin vient d'annoncer le retrait de toutes les dispositions légales prévoyant la peine de mort. Donc la peine de mort
abolition
est abolie
de, la peine de
mort. Facto.
Un pays de plus,
voilà,
au
tout
compteur.
À fait. Par ailleurs, ça veut dire aussi qu'il y avait 14 détenus qui étaient maintenus dans le couloir de la mort. Mm-hmm. Et donc leur peine est commuée. Et tout ça grâce à la campagne menée par Amnesty International.
Entre autres, on n'est pas les seuls, mais effectivement, Amnesty a mené une campagne.
Mais avec une participation importante d'Amnesty France.
D'accord. Et nous luttons toujours contre la peine de mort. Il y a encore beaucoup à faire, mais là, un point,
on
a gagné. Voilà, un pays de plus. Une autre nouvelle enthousiasmante nous vient de RDC. En espérant que ça va être appliqué, mais le gouvernement a pris une série de mesures pour éliminer le travail des enfants dans les mines de cobalt et de cuivre. Et ça nous concerne tout à fait directement parce que dans nos smartphones et dans les voitures électriques, il y a du cobalt. Et c'est Amnesty avait révélé il y a quelque temps que des enfants travaillaient dans ces mines et risquaient leur vie en effectuant des travaux exténuants pour notre consommation, on peut dire, de smartphones et autres appareils qui nécessitent ces minerais. Une bonne nouvelle récente aussi concerne l'Amérique latine, où 24 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont signé un accord contraignant, juridiquement contraignant, pour protéger les défenseurs des droits qui se battent pour le respect de l'environnement et pour le respect les terres, les droits de la terre et les droits liés à l'environnement. Et on peut dire que dans ces pays d'Amérique latine, en 2017, on a recensé presque 200 personnes assassinées, 200 personnes qui se battaient pour garder leurs terres ou pour le respect de l'environnement, contre des barrages, contre la pollution de l'eau par une usine, etc. Et c'est énorme parce que ça représente à peu près 60% des gens qui meurent, enfin qui sont tués pour ces raisons-là dans le monde. Donc ces 24 pays d'Amérique latine et des Caraïbes se sont engagés à défendre ces personnes. Voilà, des bonnes nouvelles. Et donc, pour continuer, pour que ces bonnes nouvelles se propagent encore plus, disons dans les mois qui viennent, nous vous engageons à nous soutenir, notamment en signant la pétition dont Michel parlait tout à l'heure.
Voilà, jusqu'au 31
illégal.
Août. Jusqu'au 31 août 2018.
Donc pour
sur
ça,
le
il faut faire.
Amnesty.
Il faut aller sur le site Amnesty International. Donc. En tapant Amnesty International,
pétition.fr.
Voilà,
on est directement sur le site.
On trouve la liste de toutes les pétitions, effectivement. On trouve aussi des personnes en danger qu'on peut soutenir en écrivant. Il y a plusieurs personnes en danger. On peut citer.
On peut voir également les campagnes.
Voilà, des personnes en Guinée, par exemple, une femme qui s'appelle Aissatou Lamarana Diallo, dont le mari a été tué quelques jours avant qu'elle accouche. Il n'avait rien fait de particulier, il revenait à la maison, mais il y avait ce jour-là une manifestation, il a été tué il a été victime d'un meurtre alors qu'il n'avait même pas participé à cette manifestation. Donc cette Aissatou Lamarana Diallo demande une enquête et nous soutenons donc en écrivant au gouvernement et aux ministres concernés en Guinée. Donc vous trouverez ça sur le site. De même, en République dominicaine, Jessica Profeta, qui est une mineure de 16 ans, qui n'arrive pas à obtenir des papiers d'identité. Donc, elle vit en République dominicaine, elle est née en République dominicaine, mais ses parents sont haïtiens. Et comme beaucoup d'autres enfants dans cette situation, ils n'arrivent pas à obtenir des papiers d'identité, ce qui bloque pour plein d'autres choses. Donc, effectivement, nous demandons aux gens d'écrire au gouvernement pour faire bouger cette situation. Et puis, une action assez rapide, enfin urgente à faire, c'est d'écrire au président et au ministre du Burkina Faso pour que les engagements... Ce gouvernement a pris des engagements il y a quelques années, sous la pression internationale, on peut dire, pour lutter contre les mariages forcés et les mariages précoces. Or, dans les faits, il ne s'est rien passé. Et nous demandons que rapidement le pays soit, mette en œuvre des choses contre les mariages forcés et les mariages précoces. Donc, si vous souhaitez aller dans le même sens que nous, c'est-à-dire défendre les droits humains, vous pouvez vous associer, vous pouvez aussi nous rejoindre, vous pouvez venir nous voir. Nous faisons une permanence deux fois par mois, les deuxième et quatrième mardis de chaque mois, de 17h à 18h30. Donc il y a une maison des associations à Rouen, que vous connaissez peut-être, 22 bis rue du Mont-Durville, et nous y sommes présents donc sur ce créneau 17h-18h30, les deuxième et quatrième mardis du mois. Vous pourrez nous rencontrer pour évoquer des façons de nous rejoindre ou de vous associer à ce que nous faisons. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, évidemment, en tapant Rouen Amnesty, ou sur le site amnesty.rouen@yahoo.fr. Donc vous y trouverez plein d'informations sur ce que nous faisons, sur nos combats, sur nos idées, etc. Est-ce que j'ai fait le tour ?
Oui,
tout à fait. Et puis nous écouter, diffuser, parler de cette émission, etc., etc.
Voilà. Ce qui fait la force d'une action, c'est le nombre.
Oui.
Donc quand on vous appelle à signer des pétitions, ce qui était important, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup de signatures.
Voilà, ça fait pression. Et puis, pour finir, on va remercier Romain et toute l'équipe d'HDR qui nous accueille toujours de façon fort sympathique et qui nous ouvre ses micros. Et c'est pour nous une opportunité formidable de faire connaître nos combats, nos valeurs. Hein. Voilà, merci.
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 Il est scandaleux que vous ne puissiez pas l'entendre plus tôt.
Ah, mais bien d'accord avec vous, c'est un scandale. C'est pas de ma faute. Remarquez, j'ai un petit poste minable. Hein. Il va jusqu'à 104, mais c'est quand même un tout petit poste.
HDR, le mix.
Le mix.